Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous, c'est Alix et bienvenue dans cet épisode 17 de Popcorn sucré. Encore une fois, distance malheureusement, mais c'est pour le meilleur malgré tout. On est toujours là. On va commencer nos chroniques de la semaine en laissant la parole à Clara.
Alors du coup, aujourd'hui, moi j'ai décidé de parler du film Pas de vague, qui est sorti là tout dernièrement et qui a été réalisé par Teddy Lucie Modeste. Donc déjà, il faut savoir que le film est inspiré de sa propre histoire personnelle, parce que Teddy Lucie Modeste a été pendant un certain temps professeur de lettres dans un collège à Aubervilliers. Et pendant cette période-là, il a été accusé par une de ses élèves de harcèlement sexuel, et par la suite il a été blanchi. Et il a décidé de retracer cette expérience au travers d'un film. Donc on suit dans ce film-là le personnage de Julien, qui est joué par la vedette du film François Civil, qui est un jeune professeur de français dans un collège de ZEP, pardon, qui essaye d'innover un peu avec des manières voulues particulièrement pédagogues, pour essayer de se rapprocher de ses élèves, pour essayer de tisser du lien avec eux et du contact. Donc par exemple, il a développé des méthodes de récompense à la fin du trimestre, je crois, qui consistent à payer un kebab à ceux qui obtiennent la meilleure note, enfin un petit groupe d'élèves qui obtient la meilleure note du trimestre. Donc il essaye de se montrer proche de ses élèves, de créer du contact, du lien. Le problème, c'est qu'un jour, au cours d'une étude de Ronsard qu'ils font en classe, il va tenter d'expliquer ce que signifie le terme d'astéisme, qui est le fait de complimenter quelqu'un de manière détournée. Et il va prendre, pour exemple, un compliment qu'il pourrait faire à une élève de sa classe, qui s'appelle Leslie, une classe de 4e, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser. Et donc il va complimenter Leslie sur sa coiffure, et à partir de ce moment-là, elle va l'accuser de harcèlement, en disant qu'elle se sent trop regardée et trop sollicitée par lui. Et l'histoire va prendre beaucoup d'ampleur parce que, en fait, sa classe qui, auparavant, était quand même qui appréciait de manière commune ce professeur, va progressivement se retourner, en fait, contre ce dernier et qui va, en fait, même se mettre à le harceler de manière assez violente parfois. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là, puisque le grand frère de l'élève qui l'accuse de harcèlement va menacer de mort Julien. L'élève va porter plainte, donc Julien va devoir répondre de cette plainte au commissariat. Et il va tenter de trouver du soutien auprès de sa hiérarchie, donc auprès du corps enseignant qui l'entoure et auprès du proviseur. Sauf que ce dernier lui explique qu'en fait il ne veut pas faire de vagues, comme l'explique le titre du film. Il ne veut pas que cette affaire dépasse les murs de l'enceinte de l'établissement. Il veut que l'histoire se tasse un maximum et qu'elle ne fasse pas de bruit. Donc il va en fait se retrouver progressivement très très isolé, très seul, et il ne va pas rencontrer beaucoup de soutien finalement, sauf dans son entourage proche. Et même là, on voit que, bon, je ne veux pas que j'en raconte trop, mais même là ça pose parfois certains problèmes. Par ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Julien est homosexuel, et c'est dans son homosexualité va servir un petit peu de motif aussi pour son harcèlement. Donc en fait, tout ce que j'explique là, ça prend place sur un fond d'homophobie de la part des élèves du collège. Donc qu'est-ce que je peux dire de ce film? Moi, je sais que je ne m'attendais pas à grand-chose, parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé que le film avait l'air particulièrement prévisible et que le jeu des acteurs n'avait pas l'air foufou. Et j'y suis allée par pure curiosité. Et en fait, ce que j'ai vu a correspondu à mes attentes, puisque j'ai vraiment trouvé que le jeu des acteurs était pas dingue du tout. François Civil joue très mal les scènes d'émotion, donc les scènes où il pleure par exemple, il y a des scènes où il est censé pleurer, on n'y croit pas du tout, enfin, j'ai même été un peu gênée. Je trouve qu'on n'y croit pas. Voilà, donc ça déjà, j'ai pas trop apprécié ça en voyant le film. En plus de ça, j'ai trouvé qu'il était vachement caricatural sur notamment le sujet de l'homosexualité de Julien. Son homosexualité, elle est évoquée de manière parfois un peu ridicule. Par exemple, il y a un moment du film où il rentre chez lui et où il se balade sur les quais de Seine et où il va croiser un groupe de personnes queer. Et sur chaque personne queer qu'il va croiser, en fait, il va se retourner sur elle et la regarder d'une manière très attendrissante, très compatissante, très tendre, voilà, presque tendre. Et j'ai trouvé que c'était vachement caricatural. Enfin, c'est too much. J'ai trouvé que c'était presque ridicule, en fait. En plus de ça, comme je disais, le film était particulièrement prévisible. Et en fait, je trouve que... Bah voilà, moi, je voulais le voir parce que le sujet abordé était quand même un sujet assez brûlant, assez touchy, qui pouvait être intéressant à étudier. Et en fait, je trouve que bah, il prend plutôt la place d'une vengeance personnelle qui est menée par rapport à ce qu'a lui-même vécu le réalisateur et qui, je trouve, est vachement décevant, du coup, sur la manière dont ça aurait pu être abordé. Même si le sujet qui est... Même les différents sujets qui sont évoqués sont tout de même intéressants. Donc on aborde quand même le mal-être enseignant, le peu de soutien qu'on peut rencontrer vis-à-vis de la hiérarchie éducative, etc. Les débats qui ont lieu sur la pédagogie, la manière dont il faut aborder le contact avec l'ensemble de sa classe, l'ambivalence des relations entre un professeur et l'ensemble de sa classe. Enfin voilà, tout ça je trouvais que c'était quand même assez intéressant à étudier, mais que c'était tout de même au final vachement décevant. Et voilà, donc j'ai été déçue du film, même si je m'attendais pas à grand chose. Et voilà, c'est un film que je trouve vachement moyen, que je conseillerais pas forcément, sauf pour se faire un avis dessus directement, mais sinon je trouve que ça porte pas grand chose. Donc voilà, on peut dire que j'ai trouvé que c'était un film qui était relativement moyen et qui est pas, en mon sens, extrêmement pertinent.
Maintenant, je laisse la parole à Juliette qui va nous parler de sa chronique de la semaine.
Bonjour à tous, ici Juliette et je reviens à distance pour vous parler de Quitter la nuit, un film de Delphine Girard, une réalisatrice belge, et c'est son premier film qui vient de sortir là le 10 avril. Donc, Quitter la nuit, déjà je me permets de vous faire un gros trigger warning, on va parler de viol, donc voilà, protégez-vous si vous n'êtes pas en état, évidemment, n'allez pas le voir. Mais si vous vous sentez d'aplomb, je vais vous faire un petit résumé. Donc, Quitter la nuit, en fait, c'est, on va suivre dans une première séquence très haletante, une nuit, une femme en danger qui va appeler la police. Et c'est une opératrice qui s'appelle Anna qui va prendre l'appel. Ils vont réussir à arrêter l'homme. Avec lequel la femme était, et on va suivre ensuite pendant les semaines qui passent en fait le procès, l'enquête judiciaire, donc la justice qui va chercher des preuves à la fois Ali c'est la victime et Dari c'est l'agresseur et Anna également l'opératrice qui vont en gros se souvenir de cette nuit et qui vont essayer de chacun s'en sortir, de quitter cette nuit. Waouh. Voilà, donc après ce résumé ma foi très chaotique, je vais vous donner mon avis sur le film que moi j'ai personnellement beaucoup aimé, et ma raison principale c'est pour l'écriture. En fait je trouve que le film aborde de manière très juste, très subtile un sujet qui est très sensible, et il a des revendications, il est très politique, je veux dire. Déjà, ce qui est pas drôle, mais en fait on va suivre le point de vue de trois personnages. On va pas seulement suivre le point de vue de la victime, on va également suivre du coup le point de vue de l'opératrice téléphonique et le point de vue de l'agresseur, même si évidemment on n'est pas non plus sur un pied d'égalité, je veux dire, mais ça reste un parti pris qui est très intéressant. Suivre le point de vue de l'agresseur, même pour analyser d'où vient la violence, etc., c'est très intéressant. Et ensuite, moi ce qui m'a le plus plu, c'est quand même le traitement... la dénonciation du traitement de viol par la justice. En fait, on voit, c'est un système, en fait, tout se passe bien. Parce qu'on entend plein d'histoires sur les traitements du viol, où en fait, ça se passe pas bien, où les gens font pas leur travail, etc. Mais là, ce film, je trouve politique et brillant de cette manière-là, parce que, en fait, même, on voit que même quand tout se passe bien, et ben en fait, le système même de la justice qui dysfonctionne, parce qu'il ne réussit pas du tout là où il devait s'attache, quoi. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé, je trouve tout plein de subtilités. Ah oui, et qui aussi ne tombe pas dans un écueil. Qui est notamment la représentation du viol, c'est toujours quelque chose d'un peu touchy au cinéma, et là je trouve que lui s'en sort bien, même si j'ai quelques réserves. Et voilà, je trouve qu'il y a des bonnes petites idées de cinéma, mais moi ce que je retiens surtout c'est quand même l'écriture qui en fait un film très politique, la réalisatrice est même allée suivre des équipes de police en Belgique, etc. Enfin, on voit en fait qu'elle s'est très 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 informée, il y a une grande sororité aussi qui ressort du récit et qui questionne vraiment en fait comment est-ce qu'on peut réparer les victimes, comment est-ce qu'on peut essayer d'aller plus loin. Voilà, c'est un film qui, je trouve, politiquement, est très important et très bien réalisé et à soutenir, parce que pour un premier film, c'est quand même plutôt ouf. Et si je peux me permettre de faire un peu de pub, moi, je l'ai vu dans une séance un peu spéciale à MK2 qui s'appelle une ciné-exploration, où en fait, c'est une ciné-conférence. Donc, en fait, il y a la projection du film en avant-première, puis un entretien avec un ou une spécialiste du sujet du film, puis un entretien avec le ou la cinéaste. Et ensuite des réponses aux questions du public, et je trouve que c'est un format qui se prête particulièrement bien à ce film là donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous proposeront ensuite. Et voilà, je vous encourage donc vivement à aller voir Quitter la nuit, mais seulement évidemment si vous en sentez le courage et d'aplomb, parce que c'est un film qui remue. Voilà, et ben on se retrouve pour les coups de cœur.
Alors, moi, je vais vous parler du squelette de Madame Morales, un film mexicain qui a été réalisé par Rogelio González en 1960 et que j'ai eu la chance de regarder lors de la projection inédite de sa version remasterisée au Christine, donc le petit cinéma club à côté de Sciences Po, et qui a été en fait un événement, d'après ce que j'ai compris, puisqu'on n'a pas arrêté de la projeter toute la semaine, donc c'était assez inédit. C'est difficile pour moi de vous faire une chronique assez classique du film parce qu'il est abondant, il est riche en idées, en symboles. On le classe parfois en comédie noire, parfois en drame, parfois en film d'épouvante et même parfois en horreur. Donc oui, il y a quand même pas mal d'idées. En plus, il est construit d'une façon assez particulière qui fait que chronologiquement... C'est difficile de vous faire un résumé assez clair, mais c'est pour ça que je vais essayer de quand même de vous faire un pitch compréhensible. Le film, il se centre vraiment autour du mariage de Gloria et de Pablo Morales, qui est en fait un échec total. Pablo, il est taxidermiste, il préfère aller boire des coups avec ses copains au bar du coin, c'est un bon vivant, il aime bien parler avec les gens, etc. Et contrairement à lui, Gloria, c'est une femme bigote, excessivement pieuse, qui refuse de sortir de chez elle à cause d'une malformation du genou qui la complexe énormément. Et en fait, ils vont plus supporter, ils vont faire que s'engueuler, et Gloria, en fait, elle va pourrir littéralement la vie de son mari. Comme le film l'indique de façon assez évidente, le film va se tourner autour de la disparition de Gloria, donc Madame Morales, et d'un squelette qui a étrangement lui aussi une bosse au genou, que Pablo expose fièrement en vitrine. Alors je veux vraiment pas spoiler le film parce que, comme je le disais, il est vraiment construit sur des rebondissements qui sont en fait prévisibles et évidents, mais si je vous les dévoile, le film n'a plus aucun sens. Donc... ce que je peux déjà dire, sans prendre le risque de vous spoiler, c'est que le film pousse à l'extrême les relations de couple. Les mariages, oui, ils peuvent échouer, les gens peuvent changer après le mariage ou après s'être mis en couple. Et la chose la plus importante, c'est que oui, on peut détester son conjoint. Donc en fait, le film, il bouscule les mœurs selon lesquelles, même encore aujourd'hui, même si c'est quand même beaucoup moins le cas, le couple marié doit forcément s'afficher heureux, soudé, tout va bien. Alors que finalement, c'est pas le cas, et le film le montre bien. Évidemment, le personnage de Gloria, il symbolise à lui seul la fameuse hystérie féminine et aussi beaucoup la dévotion religieuse aveugle qu'on critique par un cynisme grinçant, un humour noir qu'on retrouve bien sûr chez le personnage presque blasé de Pablo, mais aussi tout au long du film, de par les dialogues, les personnages décalés, tout ce qui contribue donc à cet humour un petit peu étrange qui fait qu'on classe parfois le film en comédie noire. On fait des religieux, et tout particulièrement des religieuses, des personnages abstinents, coincés, très crédules, en les opposant donc à la figure de l'homme de science qu'est par exemple Pablo, qui est un taxidermiste, qui tripote des cadavres toute la journée, donc ce qui est un peu l'interdit suprême selon les religions. Donc c'est quand même une super image d'opposition. Il parle avec ses copains de politique, de justice, et... un des sujets qui va vraiment être au centre du film et qui est une scène extrêmement importante, c'est la discussion autour du crime parfait. Ce qui m'amène à vous parler donc de la réflexion hyper intéressante qu'offre le film sur la responsabilité et même sur la notion de justice elle-même. Et par le film, on comprend bien qu'on est coupable que si on est reconnu comme tel par la société et par la justice. En fait, le film, il nous fait comprendre qu'il n'y a ni bien ni mal, il y a seulement ce qui est autorisé et ce qui est interdit, ce qui est légal, illégal. Et ça offre encore une fois ici une belle critique de la vision religieuse binaire du bien et du mal, puisque ben, tout au long du film, on n'est jamais confronté ni à des anges ni à des démons, mais seulement à des personnages humains qui ont leurs défauts, qui interagissent et qui en fait qui n'arrivent plus à se comprendre et à supporter. Alors évidemment, la mise en scène, elle contribue parfaitement à cette idée, avec le noir et le blanc qui est extrêmement contrasté et qui joue vraiment sur cette opposition entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière, pour finalement nous laisser dans un gris, un flou incertain, qui va vraiment nous maintenir dans un doute tout au long du film. Donc vraiment, je vous le conseille fortement, c'est un film qui surprend, qui fait bien réfléchir, qu'on voit pas tous les jours au cinéma, enfin, personnellement, c'est pas du tout ce genre de film que je vais voir d'habitude, donc allez voir Le squelette de Madame Morales. Et bien maintenant que nos chroniques de la semaine sont terminées, on peut directement passer à nos coups de cœur ou coups de gueule de la semaine, et je laisse Clara commencer.
Alors, moi, j'ai décidé de parler d'un coup de cœur que j'ai eu pour le film Jusqu'à la garde. Alors, Jusqu'à la garde, c'est un film qui a été réalisé par Xavier Legrand en 2018 et qui a remporté la même année le César du meilleur film. Donc, en fait, c'est le premier long-métrage de ce réalisateur. Et donc, dans ce film, en fait, on suit d'entrée de jeu un règlement de compte au cours d'un divorce entre un homme et une femme, donc qui sont respectivement joués par Denis Ménochet et Léa Drucker. Donc ce règlement de compte se tient dans une salle de réunion d'un palais de justice et on comprend directement l'enjeu de la situation. Le sujet qui fâche, c'est la garde du plus jeune des enfants du couple. On sait que l'homme et la femme veulent tous deux obtenir cette garde et on sait également que Denis Ménochet, donc l'acteur masculin, vient de changer d'emploi et de déménager dans la région. Donc ça se passe dans le nord-ouest de la France, je crois, pour justement se rapprocher de ses enfants et pour passer plus de temps avec eux. Sauf que l'avocate de Léa Drucker explique que justement ces derniers, ces enfants, ne veulent pas le voir et veulent tenir leur père le plus à distance possible d'eux. Donc finalement, au début du film, la juge octroie une visite par semaine du père au fils, parce que la fille est majeure, donc elle ne peut pas la contraindre à voir son père. Et on va suivre l'histoire de cette famille au travers de ces rencontres centrales entre cet homme et son enfant. Donc après cette première scène qui se tient dans le palais de justice, le réalisateur amène de la confusion de manière délibérée. Qui croire ? Donc en fait le spectateur hésite presque quant à l'origine des rapports de force en fait qui régissent cette famille. On se demande qui a raison, qui tient à tenir à distance l'autre. Est-ce que c'est la mère qui contraint ses enfants à ne plus parler à leur père parce que ce père joue très bien le personnage de quelqu'un de rejeté qui voit ses proches être manipulés pour l'ignorer, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sombre derrière et qu'il faut explorer ? Et justement, après ces différentes rencontres entre le père et le fils, on commence à saisir justement le rapport de force qui est en train de s'opérer sous nos yeux et de l'attention que celui-ci amène. Parce qu'en fait, faut savoir que ce film-là se déroule sans aucune musique, dans un style qu'on pourrait presque caractériser d'épuré, selon moi. Et en fait, il se compose de plusieurs actes. C'est des actes qui sont assez longs et qui structurent vraiment le film et qui sont filmés d'une manière extrêmement réaliste. Donc on est vraiment pris au jeu par ce film. On a vraiment l'impression d'y être, d'assister à la scène. Et c'est un réalisme qui fait plaisir à voir et qui prend vraiment aux tripes, j'ai trouvé. La tension du film, elle va crescendo. Donc c'est un film qui est particulièrement bouleversant. Moi, je sais que c'est un film... c'est un des films, je pense, que j'ai trouvé les plus saisissants que j'ai pu voir. Parce que le spectateur, en fait, il est pris d'une manière telle dans la tension qui monte petit à petit dans le film que ça en devient presque insoutenable, en fait, à la fin. Tellement on est pris dans la tension, justement, qui justement, va crescendo. C'est une tension qui est presque explosive, qui vraiment fait mal à regarder, quoi, dans l'acte final. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très très intéressant à voir. Par ailleurs, le jeu des acteurs est remarquablement bon. Donc Léa Drucker, elle a obtenu le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Et on comprend bien pourquoi. Et le reste des acteurs a quasiment tous été nominés dans d'autres catégories. Donc ça montre à quel point le jeu des acteurs a été apprécié. Et j'ai trouvé en plus de ça que ce film abordait de manière particulièrement juste en fait le sujet des violences intrafamiliales. Et que le ton donné par le réalisateur dans le film permet vraiment d'en saisir toute la gravité et tous les enjeux en fait que ce type de situation amène. Notamment le fait qu'il n'y ait pas de musique, par exemple, aborde et contribue énormément au ton grave dont je parle. Et c'est vraiment un film qui, j'ai trouvé, était simplement bouleversant en fait. Enfin, vraiment, si jamais je devais le décrire avec un seul adjectif, ça serait vraiment le terme bouleversant. Parce que je trouve qu'il change complètement. Enfin, il marque en fait. On ressent vraiment une émotion qui est presque douloureuse. Et ça nous fait prendre conscience en fait de tout l'enjeu qui se tient derrière ce sujet-là. Et je pense que c'est un film que tout le monde devrait voir pour justement en saisir toute la gravité. Donc voilà, si jamais je pouvais le conseiller au maximum de gens, je le ferais. Vraiment, voyez ce film. Il est profondément marquant et profondément enrichissant. Et je pense que c'est un film dont on se souvient. Et pour moi, c'est important quand on regarde un film, justement, que ce soit quelque chose dont on se souvient. Donc voilà, si jamais je pouvais à tous vous le conseiller, je le ferais.
Et maintenant, je laisse la parole à Juliette qui va nous donner son coup de cœur ou coup de gueule de la semaine.
Et hello à tous, c'est encore Juliette et cette fois-ci je reviens pour vous faire un petit coup de cœur. Alors je pensais le faire sur l'exposition de James Cameron à la Cinémathèque et en fait, après y avoir été, je trouve que, bon, ça vaut pas un coup de cœur. Mais du coup, je vais vous parler plutôt des Choses de la vie, qui est un film de Claude Sautet qui est sorti, il me semble, en 1970, voilà, c'est ça, en 1970, avec notamment Romy Schneider et Michel Piccoli. Il est très connu, mais bon, voilà, c'est mon message. Si vous ne l'avez pas encore vu, moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. On va suivre, en fait, Michel Piccoli. Dans la première scène, on voit qu'il a un accident de voiture. Et en fait, tout le film va être lui qui se remémore sa vie, et notamment son histoire d'amour avec le personnage joué par Romy Schneider. Et c'est un film empreint d'une mélancolie qui est émouvant. Enfin, c'est... Je sais pas comment dire, mais c'est une expérience... Enfin, c'est une expérience de cinéma. Non, mais c'est une expérience qui est quand même assez spéciale que d'être dans la tête de quelqu'un qui va presque mourir. C'est une expérience qui est presque surnaturelle, qu'on peut presque ne pas vivre. Et là, avec le cinéma, le film arrive parfaitement à nous la faire vivre, et avec émotion, et c'est un film qui... Enfin, préparez vos mouchoirs, quoi, très clairement. Et en même temps, ça a ce ton des années 70 que moi j'aime bien, et Romy Schneider et Michel Piccoli sont absolument incroyables tous les deux, et c'est, voilà, c'est, écoutez, si vous aimez bien, genre par exemple, je sais pas, moi ça, enfin, par son côté mélancolique, ça fait peut-être un peu penser à, je sais pas, La La Land. Si vous aimez bien la fin de La La Land et que vous y connaissez pas trop en cinéma, vous l'avez pas vu, et ben foncez, parce que c'est un très joli film, vraiment très très joli film, plutôt triste, mais qui vaut vraiment vraiment le coup d'être vu. Donc voilà, je crois que ce sera mon petit coup de cœur pour cette semaine-là. Voilà, au revoir.
Mon coup de cœur, je vais le faire sur la série Years and Years. Donc c'est une série britannique qui a été créée en 2019 par Russell T. Davies et qui a été diffusée d'abord sur BBC One, mais après sur HBO, si je ne me trompe pas. La série suit le quotidien en fait de la famille Lyons qui vit à Manchester à partir de l'année 2019, donc à partir du Brexit, et pendant les 15 années qui suivent. Donc on nous propose en fait de faire un voyage dans le temps et de prédire l'avenir de nos économies, de nos régimes politiques, de nos relations internationales, ou même de l'état du climat ou des nouvelles technologies. Donc je vous préviens, faut quand même regarder cette série en allant bien moralement, parce que c'est très très peu optimiste et c'est peu réjouissant, on va dire. Ce que j'aime particulièrement avec cette série, c'est qu'on met vraiment en scène les futures grandes catastrophes humaines à l'échelle d'une famille, ce qui fait qu'on s'identifie très facilement au personnage et que la série elle devient particulièrement réaliste en fait. Y a une grande crise économique, la montée des populismes, la menace nucléaire, le développement des nouvelles technologies. En fait, toute cette agitation là, elle va bouleverser certes le monde entier, mais aussi et surtout la vie de famille des Lyons. Donc on va les voir débattre, être en désaccord, parfois même se disputer. Les relations au sein de des couples de la famille et même entre les membres les plus âgés et les plus jeunes, ils vont vraiment forcément en prendre un coup. Donc c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et selon moi, parler des catastrophes qui nous attendent sans passer par le prisme de la famille ou de l'individu, bah, ça a peu d'intérêt, moins d'intérêt en tout cas, c'est juste anxiogène, quoi. Juste prédire l'avenir en disant que on est foutu. Et c'est pour ça que là, la série est intéressante, parce qu'on parle d'événements globaux pour mesurer comment vont nous impacter dans nos vies concrètes de tous les jours ces événements-là, dans nos relations humaines, dans notre travail, dans nos modes de vie, nos modes de consommation, etc. Donc voilà, ce qui est aussi le plus fort dans cette série, quand on la regarde aujourd'hui en 2024, c'est qu'elle a prédit, entre guillemets, plusieurs événements qui se sont réellement passés après sa sortie en 2019, en fait. C'est sa cohérence avec la réalité qui fait que la série, elle est extrêmement dérangeante, presque terrifiante, en fait, parce qu'elle montre et elle anticipe des événements qui sont tout à fait probables et qui vont sans doute se passer dans la vraie vie, quoi. Et pour l'anecdote, la série, elle avait fait parler d'elle vraiment quand Liz Truss, donc l'ancienne première ministre britannique, était apparue publiquement avec exactement la même tenue que la femme politique populiste qu'on voit vraiment tout au long de la série. Donc les gens étaient partis en live et avaient commencé à faire des théories autour de la série, en les comparant avec les Simpsons qui prédisaient le futur, etc. Donc c'était assez drôle. Donc voilà, en bref, c'est une série qui est hyper puissante, qui est très courte, c'est 6 épisodes seulement, donc on se prend vraiment au jeu très très facilement, c'est très intense. On fait 15 ans en 6 épisodes, c'est quand même assez ouf. Avec une bande originale qui est excellente, qui contribue totalement à l'ambiance fin du monde. Donc, faut être quand même assez bien dans sa peau, mais foncez la regarder parce qu'elle est vraiment géniale. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'épisode 17 de Popcorn Sucré. Et à la semaine prochaine, je l'espère, en studio. Salut !